C'est peut-être parce que c'est du latin que personne... Ça, c'est 14 pages dans ce bouquin. Je sais plus, 14 pages. Et ça parle du portail. Dans le film, d'ailleurs, ça dure 3 secondes. On ouvre le portail, c'est tout. Mais dans le bouquin, c'est 14 pages de latin. Mais tu passes les 14 pages dans le calme et la discipline et tu continues à lire le truc. Et puis tout va bien, quoi.
C'est, bien sûr. Ça et fait chez partie Gada, je ne sais pas si vous connaissez Carlo Emilio Gada, il y a plein de mots du dialecte vénitien, je crois. Mm-hmm. Et c'est magnifique.
Je l'ai quand même laissé, hein, l'ange. C'est juste la plaine au sommet. C'est juste la plaine au sommet de la colline.
On constate qu'il y a justement certains éditeurs qui sont plus souples que d'autres.
Sûrement. Bah, c'est même pas l'éditeur, c'est les correcteurs.
C'est les correcteurs.
Parce que moi, je suis quand même je fais le malin tout le temps en disant que moi, mon éditeur, il m'a poursuivi pendant 8 mois à peu près, quoi. Parce qu'il a eu mon manuscrit sans moi. C'est quelqu'un d'autre qui lui a posé mon manuscrit.
C'est un peu comme quand on inscrit des jeunes filles à Miss France dans leur dos, quoi. Chaque gagnante a été inscrite par
un
cousin.
Ouais, c'est un peu comme ça.
À The Voice aussi, ils font ça.
Oui.
Moi, j'étais en Côte d'Ivoire et puis c'est quelqu'un d'autre qui lui a apporté mon manuscrit et je répondais pas aux mails parce que je vivais dans un endroit où il y a pas de mails. Tout simplement, j'ai vécu 11 mois dans un endroit où il y a pas de mails. Donc il m'a cherché longtemps et debout payé. De sorte que debout payé, il a pris le temps de le lire, le relire. Tu vois, il a eu le temps, quoi, de ne pas avoir de relation avec moi. Et au point où, quand on a eu des relations, il y avait pas la place pour lui de mettre quoi que ce soit dans ce texte-là, par exemple. Aucune place. On a changé 2-3 adjectifs qualificatifs. Il y a aussi le fait que, de façon culturelle, la question de la légitimité que tout le monde se pose, la légitimité de la parole publique, c'est pas une question civilisationnelle chez moi. Tout le monde a droit à la parole publique. Et à la parole publique magnifiée en plus. C'est-à-dire que tu parles pas juste pour dire, exprimer ton avis, mais tu te dois de parler avec une forme, une emphase. Avec une langue. Mmh. Qui fait que tu t'inscris dans comment tout le monde parle. Donc ça n'a jamais été une vraie question pour moi d'être légitime ou pas. Donc voilà, tu lances ton truc et il n'y a plus la place.
On va faire circuler la parole, Adeline Dieudonné, vous voulez réagir?
Oui, non, je reviens juste sur la belgitude d'un texte et effectivement sur les belgicismes et le fait de laisser ou pas une part de belgitude. Ça dépend aussi comment on ancre le récit. C'est-à-dire que si... je trouve effectivement assez logique de le faire si le récit est ancré, voilà, est vraiment localisé dans un pays. Et à ce moment-là, c'est extrêmement beau et ça porte. S'il ne l'est pas, en l'occurrence, là dans le mien, c'est vrai que j'avais pas non plus envie de parasiter le lecteur avec de la belgitude qui finalement n'existe pas du tout dans le texte. J'avais pas du tout une volonté de le situer et voilà. Alors que effectivement, peut-être que dans un autre, je le ferais parce que vraiment j'identifierais un lieu et que je trouverais important d'avoir la couleur du pays dedans. Voilà.
Nathalie Quintane, parlons un petit peu de la manière dont ça se passe chez POL. Vous avez dit que ça avait l'air plus souple qu'ailleurs. Comment ça se passe?
Alors, en fait, il y a deux choses. Je pense que quand on écrit, il y a un moment, quel que soit le moment qu'on choisit, que ce soit en cours de rédaction du texte ou à la fin, où un regard, deux regards, trois lectures extérieures sont absolument indispensables parce qu'on est trop le nez dans le guidon. Moi, ça, c'est, je pense qu'on en a tous fait l'expérience pour pouvoir relire le texte, quoi. Et il faut du temps, des fois le laisser de côté, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et qu'il y ait d'autres regards. En ce qui concerne Paul Tchaïkovski-Laurence, donc qui est mort, hein, il y a pas tout à fait un an. C'est peut-être un peu particulier par rapport à ce que j'ai entendu d'autres éditeurs, au sens où il acceptait le manuscrit tel quel, ou il le refusait, j'allais dire, tel quel. C'est-à-dire que si ça ne lui convenait pas, il ne demandait pas de retravailler, en tout cas il ne m'a jamais demandé, après je ne peux pas parler pour tout le monde, mais de retravailler le texte. Si ça ne lui allait pas, il ne le publiait pas, et puis ça s'arrêtait là. Et je crois que l'une des... Voilà, alors pendant très longtemps, j'ai accepté ça comme un fait. Et puis bon, voilà. Je crois qu'il donne dans son deuxième film, qui est un film très intéressant, qui s'appelle Éditeur, qui est un documentaire, mais un documentaire très... comment dire le documentaire d'un artiste, en fait, hein, que je vous recommande si vous êtes intéressé à l'édition, à la littérature et plus. C'est vraiment intéressant. En fait, à un moment... il parle de son métier et il dit que ce qu'il aime dans les livres qu'il publie, et là, l'une des raisons pour lesquelles il publiait ces livres-là, c'est que ce n'était pas des livres parfaits, au sens où ce n'était pas des produits tirés à quatre épingles. Je pense qu'il y a ça derrière. Hein. Il préférait des livres où il y ait des imperfections, des livres peut-être un peu trop longs, ou je ne sais pas, qu'un livre qu'il aurait retaillé comme ça, ou auquel il aurait suggéré d'apporter des modifications, et qu'il aurait tiré vers, dans son esprit, je suppose, hein, quelque chose de plus adapté à la vente, au fond, ou à ce qu'attend le marché littéraire, puisqu'il y en a un quand même. Hein, je pense que l'une des raisons, c'est ça. Il préférait des livres un peu imparfaits. Et Frédéric Boyer, qui a pris sa succession, hein, je pense, sera assez fidèle à ça, au fond. Quoi.
Mm. Oui, Laurent Chalumeau.
Brièvement, il y a un truc tout à fait frappé au coin du bon sens qu'a dit notre ami, c'est que... on a un éditeur, mais ça ne suffit pas. Il faut multiplier les avis. Et il y a le point de vue de l'éditeur, dont je disais plutôt que voilà, son métier, ce n'était pas de trouver des solutions, mais d'identifier des problèmes. Et en revanche, j'imagine que c'est le cas pour, sinon tous, enfin la plupart des auteurs qui sont ici autour de moi. Avec le temps, on se développe comme ça un réseau de collègues, mais au sens le plus compagnon du Tour de France du terme, hein, mais d'autres mécanos. Quoi. Et donc, de mécano à mécano, on a chacun les siens et on se donne les thèmes. Moi, j'ai ça, alors, ça va faire name dropper, mais moi, j'ai ça avec Virginie Despentes. C'est-à-dire que, rituellement, depuis plusieurs livres, je lui montre la mienne, elle me montre la sienne. Je parle des premières versions, hein, qu'on ne se méprenne pas. Il y a des choses que seule une collègue ou un collègue va savoir dire. Mais ça joue parfois, c'est des petites conneries, mais c'est un truc qu'un éditeur ne verra pas, révérence gardée pour sa valeur ajoutée à lui ou à elle. Il y a vraiment un truc... quand tu disais que plus on consultait, c'est-à-dire que, comme je disais plus tôt, quand on est jeune et... insecure, on protège sa copie et on se cache derrière son pupitre. Et puis, avec l'âge et une certaine sérénité ou un certain fatalisme, eh ben, au contraire, sans virer dans un délire de consultation tous azimuts, eh ben, on montre sa copie. Et effectivement, plusieurs avis. Mais il y a une qualité quand même singulière, par-delà le point de vue de l'éditeur, du collègue ou de la collègue. Ça, c'est irremplaçable.
Stephen King, en tout cas, dit de ne jamais faire ce genre de choses, de jamais faire lire son manuscrit avant d'en être vraiment certain, avant de l'avoir vraiment bétonné à qui que ce soit, sauf peut-être lui à sa femme. Et il faut peut-être, si on vraiment on y tient, trouver un partenaire privilégié.
Alors, c'est pas contradictoire avec ce que je disais.
Non.
Parce que ne jamais faire lire un truc qu'on ne considère pas fini, ça c'est évident. Mais il y a un moment donné où on a l'impression que c'est fini, et en fait... Le moment où on pense que c'est fini n'est que le début d'un long processus. Mais effectivement, ne jamais faire lire un truc qui est en devenir. Parce que si ça remporte l'approbation, on se dit, tout ce que je vais faire à partir de maintenant ne peut que gâcher cette bonne impression. Et si ça déclenche la circonspection, ça casse les jambes, alors qu'en même temps, le truc n'était pas fini, et donc on ne lui a pas donné toutes ses chances. Mais en revanche, une fois qu'on a le sentiment que c'est fini, oui... là, on peut le faire lire à plein de gens. À sa femme, je suis pas sûr, parce que
femme à lui, en tout cas.
Oui, mais moi, il a beaucoup de sens parce que moi, l'une des raisons que j'ai d'écrire, c'est d'entretenir la séduction vis-à-vis de la femme de ma vie. Et elle lit, elle biffe, elle me propose toujours des coupes, hein, jamais des rajouts. Et puis une fois qu'elle a fini, ça fait 25 ans que ça dure, hein, donc. Et Elle me dit, non, non, c'est bien. Mais tu sais, moi, les polars... Et c'est formidable parce que ça entretient la séduction, puisque c'est le but. C'est-à-dire que moi, ça me motive pour en écrire d'autres, pour essayer d'obtenir mieux.
Mais c'est peu mieux faire, quoi.
Voilà.
Et c'est comme ça que ton histoire d'amour tient.
Lydie Salvert, ça se passe comment aux éditions du Seuil, les relations entre écrivain et éditeur, en tout cas ?
Alors moi, je vis avec Bernard Wallet, qui a été le créateur des éditions Verticales. Mmh. Donc, il le lit une fois que c'est fini. Et puis, il y a la lecture de l'éditeur et c'est tout. Je serais affolée, moi, par des avis divers, etc. Je ne peux pas. Deux personnes, c'est le maximum. Quitte à me, non pas que je sois sûre de moi.
Mais vous avez appris au fil des livres à vous faire confiance aussi.
Non, je ne crois pas. Non, mais non, il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire, le montrer.
À peur de quoi ?
Peut-être d'un retour, je ne sais pas.
Négatif ?
Peut-être, peut-être.
Moi, j'ai un copain.
Gauze.
J'ai un copain, quand j'écris un truc, je lui montre, il dit, c'est lui, c'est un peu l'histoire des collègues, là, c'est un peu à peu près ça, en fait. C'est pas, sauf qu'il n'est pas écrivain, mais bon, là. Je lui montre le truc, quand il lit, quand il fait « Waouh, c'est génial !» Je fais « Putain, c'est une merde.
» Sympa.
S'il fait ça, je comprends rien. Je dis « Ça, c'est génial. » Donc voilà, on a tous un peu des tests, des espèces de bêta-testeurs. Après, la quantité, le nombre et tout ça. Mais je crois que, en fait...
Pardon.
J'ai le sentiment qu'on écrit pour quelqu'un, toujours. J'ai le sentiment qu'on écrit... En tout cas, pour chacun de mes textes, en tout cas. Mais je crois qu'on est tous un peu comme ça. On écrit. Il y a deux, trois personnes pour lesquelles on écrit.
Ah oui, je suis d'accord.
Et ceux-là, on a envie de leurs avis, en fait.
Mais qu'ils ne les liront peut-être jamais, les textes.
Ouais, mais bon, mon frère. C'est un peu triste. Mon frère, il est mort. Il est mort d'un cancer. Il n'a jamais lu de fiction. Il lit que des essais ou des livres techniques sur l'économie, la banque, les choses comme ça. Et quand il a su qu'il avait un cancer, et qu'il ne l'a dit à personne, en fait, un jour, on était tous un peu bourris, et puis il me dit « Mais t'es pas en train d'écrire un truc, là ? Je veux bien le lire. » Je me suis dit « Ça, c'est bizarre, quoi. » Et quand il a lu en entier. Donc moi, j'étais sûr qu'il n'allait pas le lire. Donc quand il a fini le livre, je lui ai dit, t'es malade, toi, t'as quelque chose de ça. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il m'a avoué qu'il avait le cancer, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Et tout ce qu'il a dit sur cette fiction, là, et en réalité, debout payé, j'avais écrit pour trois personnes, dont lui. Tu vois, il avait cet avis de dire, ouais, putain, t'es complètement con. Et ça m'a rassuré, tu vois, de me dire que c'est encore mieux qu'un regard d'éditeur. Et voilà, l'idée c'était de dire qu'on écrit tous pour deux, trois personnes en réalité, et qu'après le texte peut voyager ailleurs.
Vous êtes d'accord avec ça ? On écrit pour une, deux, trois personnes, en particulier Lydie Salvert ?
Moi je ne sais pas pour qui.
Vous ne savez pas pour qui vous écrivez ?
Non.
Pour vous d'abord peut-être ?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que la bataille, elle est souvent avec les correcteurs qui sont très normatif pour la ponctuation.
C'est des capots. Hein, oui.
Hein et c'est. Or, la ponctuation, c'est vraiment politique. Hein. Dans l'écriture classique, la ponctuation, elle est parfaite. Elle est... Donc,
et moi, là, il faut résister.
Vous avez vécu ça aussi, ouais, vous, Sébastien ?
Oui, moi, j'ai eu trois correctrices. Mais c'était difficile, quoi. C'était beaucoup plus facile de faire lire le manuscrit à l'éditeur. Alors que j'étais vraiment un bleu et que j'étais vraiment en mode vierge effarouchée, que je disais, il va pas aimer, il va y trouver ça horrible et tout. Il y a du don.
Il n'y a pas de discussion avec le correcteur. Enfin, je ne sais pas. Moi,
non, correcteur, on parle de ponctuation et
ponctuation et tout. Je ne sais pas, moi, il y a le correcteur qui est Jean-Luc Mingus, qui est le correcteur chez POL. Il propose. Il fait son boulot, quoi. Et après, oui. Voilà.
Ah non, mais attends, t'es pas obligé d'accepter. T'es pas obligé d'accepter. Mais moi,
il est pas du tout, comment dire, il y a même pas de négociation qui s'engage, quoi. C'est.
Ah non, mais il a eu, elle proposait des trucs. on va mettre plutôt le point virgule là et on va faire une deuxième phrase avec la phrase. Ben non. Voilà, et c'était un petit peu moi qui découvrais en tout
cas, moi qui découvrais,
ouais, non, mais voilà, qui découvrait vraiment le travail avec pas l'éditeur, la correctrice, et j'en ai eu trois différentes d'ailleurs, je sais pas pourquoi, ce qui fait vraiment des problèmes. Je refusais évidemment pratiquement toutes leurs propositions, quoi.
Oui, on va peut-être maintenant donner la parole à quelqu'un qui travaille caché derrière son ordinateur.
Et qui va faire des imitations.
Depuis pas mal de temps, là, maintenant. C'est Isabelle Huéry que vous avez entendu en ouverture de cette Nuit des écrivains. Vous pouvez venir près de nous, peut-être. En tout cas, il va falloir attraper un micro. Ben non, restez... Non, on va partager le micro. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va le faire, en tout cas. Voilà. Vous allez nous lire dans quelques instants un extrait de votre tout nouveau roman qui est sorti
hier. Qui sort aujourd'hui.
Non, hier.
Hier, c'est vrai, on est déjà passé du côté obscur.
Voilà, oui, ça passe vite, mine de rien. Mais j'aimerais quand même qu'on parle d'abord avec vous d'une particularité, à savoir que vous avez besoin de voyager pour écrire. En tout cas, vous allez vous isoler. D'ailleurs, vous revenez de Chine.
Ouais.
Pourquoi est-ce que vous avez besoin de quitter le plat pays pour aller écrire ?
Et surtout en Chine, qui est quand même un endroit peu hospitalier. Pour, quand on s'imagine les retraites d'écriture, regarder des verts pâturages, c'est peut-être pas ça que vous avez été chercher là-bas.
Non, pas du tout. C'était plutôt à Pékin. C'est vrai que les verts pâturages m'angoissent plutôt que de me donner envie d'écrire. Mais la Chine, j'ai une histoire avec la Chine depuis presque 2 ans maintenant. Surtout Pékin, parce que la Chine, évidemment, c'est énorme, mais je connais surtout Pékin, où j'ai participé notamment à un festival Union européenne-Chine, un festival de littérature l'année dernière, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs chinois, des éditeurs, etc. Et j'ai une grande amie là-bas qui est belge, sinologue, et qui est pour l'instant nommée à l'ambassade de l'Union européenne en tant qu'observatrice de la politique intérieure chinoise. Donc c'est une porte d'accès, une porte d'entrée dans ce pays qui est vraiment très compliqué. Mais la ville de Pékin, c'est assez fascinant. C'est une ville où il y a une énergie, tu connais, c'est ça ? Il y a une énergie, mais incroyable. On a l'impression qu'ils sont déjà en 2050 et en même temps toujours en 1700. Donc il y a une espèce de
et ça, choses. Ça dope l'écriture ?
Ah, moi, ça me dope vraiment très, très fort. Par exemple, là où je vais écrire, c'est au Temple du Soleil. Je traverse un petit parc le matin où les Chinois font du tai chi, ils font des arts martiaux, ils chantent, ils jouent de la flûte. Parfois, un monsieur m'invite à danser, un monsieur qui sent l'ail, parce qu'il sent beaucoup l'ail. Ben voilà, c'est plein d'histoires comme ça. Et donc, j'arrive dans un petit café au bord d'un petit lac. Voilà, c'est évidemment extrêmement stimulant pour l'imaginaire. Ça m'aide à... Je suis en émerveillement constant sur le quotidien de la vie là-bas. Je suis un peu dans une espèce de transe comme ça, permanente. Et j'avoue que ça m'aide pour l'écriture. Et donc, là, je viens d'y aller pour travailler sur un prochain roman qui se passera aussi en Chine. Donc, j'ai capturé plein d'ambiances, d'histoires, de sensations. Et voilà.
Et Poney flottant, il est né où ?
Ah, le titre, il est né au Japon.
Non, mais au Japon.
Au Japon. Le titre est né au Japon.
Et l'écriture ?
Je l'ai un peu écrit en Espagne, au Brésil aussi, parce que j'ai
Vous écrivez chance. Parfois en Belgique ?
Oui, oui, tout à fait. mais bon, comme ça prend du temps quand même, l'écriture d'un roman, j'ai le temps de... Je travaille avec une compagnie théâtre ici en Belgique qui fait le tour du monde, donc je profite aussi de ces moments-là pour écrire. Mais oui, c'est être confronté à une autre langue, à des odeurs, des rythmes, à des musicalités, c'est très stimulant.
Et on écouterait un extrait de votre roman ?
Oui.
Que vous allez nous lire en direct. Si vous êtes peut-être proche du pupitre, c'est peut-être plus simple pour vous, je ne sais pas, ou là, comme ça, à vous de nous dire.
Ça va, j'ai 2 pages.
C'est Poney flottant.
C'est Poney flottant.
Et c'est parti.
C'est parti. Donc, mon grand-père a beaucoup de classe. Une espèce de England Prestance d'une retenue de Lord. Il m'aime à la folie. À 10 ans, je suis sa princesse, sa queen de l'étable, son cake au foin. Et il sait me le dire, me le faire sentir, rien qu'en me regardant, rien qu'en mettant du supra-suite et de l'amour sans condition dans ses yeux. Et cette force-là, je ne pourrai jamais l'oublier, cette qualité de regard, amour majuscule. Alors j'en profite un max, mesure l'étendue de mon pouvoir sur lui, à coups de taquinerie, de caprices, de désirs insensés, et il m'offrira un jour un vrai cheval. Et voilà, je ne suis encore qu'une toute petite enfant, et de tous les êtres qui peuplent la ferme, c'est moi qui ai le plus de pouvoir sur mon grand-père. C'est bien plus excitant que toutes mes videogames où tu deviens éminence des croûtes célestes virtuelles. Je suis la maître d'un monde réel, où le moindre balbutiement de mes cils induit des circo-révolutions dans notre toute grosse ferme du pays des Galles. Faut dire, de par chez nous, on a du sang de Henri le 28. On a toutes les miniatures des héros de Shakespeare dans les artères. On a les guerres, on a les battles, on a les vikings, du corbeau noir et des têtes coupées. Et je suis maître absolu de mon grand-père, donc de la ferme. Je veux le pain doré, la grand-mère doit me préparer le pain doré. Je veux le fish and chips au lit, je le reçois au lit. Je veux le cheval, bientôt je l'aurai. Grand-père l'a dit. Ce n'est qu'une question de temps, de jours, de date d'anniversaire. Pour mes 12 ans, je l'aurai, le cheval. Tout le monde est contre, car ils disent que je ne vais pas m'en occuper du cheval, qu'au bout du compte, c'est la grand-mère qui aura tout le boulot sur son vieux rable. Mais si je le veux, alors mon grand-père le veut. Alors j'aurai la bête. Je dois l'avoir. Tous les conquérants d'un royaume ont un cheval. Voilà.
Isabelle Houerry, extrait de son nouveau roman,